France Inter. Le 6-9 sur France Inter.
Et c'est l'heure de retrouver notre jardinier, le jardinier préféré des auditeurs de France Inter, Alain Baraton. Deux plantes sont connues pour fleurir au moment des fêtes de Pâques, c'est-à-dire maintenant.
Oui, la première est la fritillaire impériale, une plante à bulbe qui produit à l'extrémité d'une tige des fleurs en forme de clochette et disposées en couronne. Alors ces fleurs sont le plus souvent rouges, jaunes ou oranges. Il se dit, voyez-vous, que depuis la nuit des temps, cette plante fleurissait comme toutes les autres, à savoir les fleurs dirigées vers le soleil. Mais à Pâques, lorsque Jésus-Christ fut crucifié, la fritillaire ne changea pas ses habitudes et continua de fleurir comme si de rien n'était. Depuis, rongée par la honte, elle s'incline vers le sol en signe de respect.
Ah. Mais elle annonce quand même le printemps.
Elle annonce bien sûr le printemps, bien sûr. Mais ce n'est pas la seule à annoncer le printemps.
Et maintenant, il y en a une autre, une plante bien plus modeste et bien plus connue, qui annonce aussi donc les fêtes de Pâques.
Et oui, la pâquerette, eh bien évidemment, cette petite fleur que beaucoup d'enfants ont cueillie pour confectionner des couronnes et des bracelets.
Mais oui.
Vous-même, vous avez dû le faire, Marion.
Bien sûr.
Bah, évidemment, nous l'avons tous fait. Alors la pâquerette nous permet, comme la marguerite, de savoir si nous aimons un peu, beaucoup ou à la folie. Alors, je vous le dis, Ali.
Petit doigt quand même.
Hein. Oui, mais aidez-moi.
Il y a 35 pétales à la pâquerette, donc calculez à l'avance, vous arrivez toujours à la folie, je vous dis, ça peut éventuellement impressionner.
Ah, génial.
Victor Hugo, un amoureux des mots et de la vie, le savait, et il écrit dans Les Misérables, je le cite, « Elle effeuillait une pâquerette. Elle maniait cette fleur d'instinct, innocemment, sans se douter qu'effeuiller une pâquerette, c'est éplucher un cœur.
Oh. »
C'est magnifique.
Ah oui, Victor Hugo, c'est toujours magnifique.
Mais vous aussi, Alain Baraton, on va passer aux questions des auditeurs jardiniers, on va démarrer avec Aline qui vous pose la question suivante. Mes poireaux sont tous les ans moins beaux. Pourquoi ?
C'est une question que les jardiniers peuvent se poser. Tous les ans, vous produisez des légumes dans votre jardin et vous vous rendez compte d'une dégradation dans la qualité ou la quantité. Pourquoi ? Alors, il faut regarder déjà la terre. Le poireau n'aime pas l'excès d'humidité. Peut-être que quelques mouches ont fait des dégâts. C'est des mouches qui viennent pondre. Eh bien, dans le poireau, les mouches, les vers en se développant font des galeries et affectent bien sûr la qualité du poireau. Ce serait peut-être la teigne du poireau. Beaucoup plus vieux. Oui, c'est pas terrible. Et ça se repère aux feuilles jaunes. Et toutes ces bestioles peuvent hiverner dans la terre. D'où l'importance pour le poireau de faire la rotation des cultures. Ne plantez pas d'une année sur l'autre les mêmes légumes au même endroit. Et je vous garantis que si vous mettez des poireaux dans une terre nouvelle, bien riche avec du bon compost, eh bien vous verrez les résultats. Vos poireaux n'en seront que plus beaux et plus goûteux.
Et je suis sûr que tous les enfants qui nous écoutent sont ravis de ce conseil que vous donnez à Aline. Maurice, mes tulipes dans ma pelouse ont fini de fleurir, est-ce que je peux maintenant les couper ?
Oui et non, non, parce que oui, on peut les couper bien entendu. Oui, hein. Je vous sens un petit peu perdu. Vous avez semé ou planté des tulipes sur une pelouse, les tulipes sont en fleurs et l'arbre commence à pousser. Les tulipes sont fanées, il ne nous reste donc plus que les feuilles, puis-je les couper ? Je viens de résumer la situation. Eh bien non, il vous faudra attendre que les feuilles aient séché avant de les couper. Très important parce que le séchage de la feuille de la tulipe permet aux bulbes sous terre de se reconstituer en réserve. Donc on peut couper les tulipes fanées uniquement quand les feuilles sont sèches. Ai-je été clair, monsieur Badou ?
Très clair. Christiane, est-il obligatoire de ramasser l'herbe coupée après avoir tondu ?
Oui et non. Oui. Oui.
Ah oui. Mais
c'est formidable.
Soyez clair.
Bah oui et non.
Parce
oui.
que c'est complexe.
Bah oui. Oui, si vous avez attendu longtemps avant de tondre et que la quantité d'herbe coupée est importante, vous risquez de laisser un tapis qui va jaunir et qui est très inesthétique, qui va compliquer la tonte suivante et qui, pire, va créer une sorte de pellicule qui va limiter l'évaporation et qui risque fort de faire venir sur votre pelouse de la mousse ou des champignons. Non, deuxième possibilité, si vous tondez comme les Anglais, très régulièrement, et c'est même beaucoup mieux, en tondant très régulièrement, vous coupez une toute petite herbe qui se décompose sur le terrain et qui restitue à la terre eh bien, l'engrais que vous avez prélevé en évacuant l'herbe.
Et c'est encore mieux de le faire au ciseau.
Ah oui, ça tout dépend de la surface de votre pelouse.
C'est vrai. Jean vous demande, combien faut-il semer de graines au mètre carré pour avoir un beau gazon ?
Alors, en général, moi je dirais entre 20 et 30 grammes au mètre carré. Alors, le mieux, c'est quand même de vérifier et de lire attentivement le mode d'emploi. Mais n'hésitez pas à avoir la main un petit peu lourde pour une raison simple. Nous sommes au printemps, votre gazon, il est prêt, la terre est nivelée, vous avez pris soin d'évacuer tous les cailloux, c'est nickel, et arrivent les oiseaux. Donc, les spécialistes vous disent 20 graves au mètre carré, moi je vous dis 30.
Merci pour le conseil, maître Baraton, c'était la main verte.